Radio Kapi.
Deux morts, un poste de police et une partie du marché de Mbandaka 2 incendiés. Un bilan des échauffourées hier entre la police et des étudiants. Ces derniers revendiquaient la baisse des frais académiques. Annulation de l'arrêt de la Cour de cassation condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison dans le procès de 100 jours. L'association congolaise pour l'accès à la justice à Cage dit prendre acte de cette décision, estimant valable les motifs avancés. Madame Jaël Kaïba est notre invitée ce matin. Elle est présidente provinciale de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo. Bonjour à tous. La tension a été très vive hier à Mbandaka à la suite des revendications de la baisse des frais académiques par des étudiants des différents établissements. Les échauffourées ont fait deux morts, dont un commandant de police. Des manifestants ont récupéré deux armes du poste de la police avant l'incendie du bureau communal de Wangata et d'une partie du marché de Mbandaka 2. Sur place à Mbandaka, la nouvelle société civile congolaise de l'Équateur condamne les échauffourées entre les étudiants et les forces de l'ordre. Cette structure citoyenne dénonce une manipulation des jeunes, d'autant plus que les autorités académiques ont déjà répondu favorablement aux revendications des étudiants. C'est pour cela que le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise a lancé un appel au calme. Jean-Paul Kayembe est au micro de Paul-Richard Malengela.
Nous demandons d'abord aux étudiants d'être calmes. On ne trouve pas la solution dans des guerres, dans des chevauchements. Il y a moyen de voir les autorités pour trouver la solution. Et la mort de cet étudiant-là, nous déplorons ça. On condamne avec la dernière énergie et nous savons ce que nous allons faire après avoir côtoyé les autorités de la province. Et nous demandons que le président de la République et le chef du gouvernement, Sam Alukonde, de s'imprégner dans ces dossiers afin de trouver la solution pour les frais académiques dans la province de l'Équateur. Parce que dans ces temps ici, nous, la nouvelle société civile, nous attendons que le président de la République vienne dans la province et que le ministre national de l'Issue puisse trouver la solution à la hâte pour éviter des guerres qui se passent actuellement dans la province. Perdre les vies humaines, ce n'est pas normal.
Notons que les activités académiques sont paralysées dans tous les établissements de la ville. Pour rappel, les étudiants manifestent depuis lundi contre la majoration des frais académiques passés de 350 000 francs congolais l'année dernière à 604 000 francs congolais à l'ISTEM Mbandaka, d'où est partie la revendication des étudiants. Grogne des étudiants également à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kasangoulou dans le Congo central. Ces derniers protestent depuis deux jours contre la hausse des frais académiques. Ils ont saccagé quelques bâtiments de l'école et caillassé le véhicule d'un député provincial venu s'imprégner de la situation. La police a usé des gaz lacrymogènes et de coups de feu en l'air pour rétablir l'ordre, indique la société civile de Kasangoulou. Toujours au Congo central, la province vient de transférer mardi pour la première fois 200 jeunes appelés communément Kuluna vers Kanyamakasese. Leur embarquement a eu lieu au commissariat provincial de la police du Congo central en présence de Placide Nyembo Mwalushai, commissaire provincial de la police. Le ministre provincial de l'Intérieur qui a supervisé cette opération indique que celle-ci marque un point décisif pour dissuader les autres criminels présumés à abandonner ce mauvais comportement.
Ces 200 incivils communément appelés Kuluna en partage pour Kanyamakasese sont venus de Matadi, Mbanzangungu ainsi que d'autres centres de détention situés au district de Bas-Fleuve. Après avoir semé la terreur et la désolation dans la population, ces jeunes dont la traque a débuté le mois passé à l'initiative du commissaire provincial de la police ont embarqué dans 5 bus pour Kinshasa sous une bonne escorte de la police. À en croire le ministre provincial de l'Intérieur Serge Kouébena, c'est dans des conditions acceptables qu'ils quittent la province du Congo central. L'autorité provinciale a mis à leur disposition des habits, des boîtes de conserve et des bouteilles d'eau pour qu'ils s'en servent durant les trajets Matadi-Kinshasa. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, ces premiers convois vers Kanyamakasese est un grand pas vers l'éradication du phénomène Kuluna. Serge Kouébena.
L'autorité veut marquer un point décisif pour convaincre les autres qui ne veulent pas comprendre de ces mauvais comportements inciviques, de tourmenter les papas, les mamans, de les blesser, de voler, violer. On veut les dissuader par ce fait-là. Parce que généralement, quand on les arrête, ils se retrouvent à la cité 3, 4, 5 jours après.
Une fois arrivés à Kinshasa, ces inciviques seront mis à la disposition du service national pour qu'ils apprennent un métier, afin que ces comportements de mal agir puissent les quitter. Tadi, Nana Plerich Mambou, Radio Okapi.
Parlant des réactions après la décision de la Cour de cassation lundi, annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison dans le procès de 100 jours. L'Association congolaise pour l'accès à la justice dit prendre acte de cette décision, estimant valable les motifs avancés par la Cour de cassation. L'ONG ACAJ annonce qu'elle suivra comme d'habitude la suite de cette affaire à la Cour d'appel de Kinshasa. Son président, Georges Kafiamba, l'a dit à Babel Mpongo Masimango.
Nous avons pris bonne note de cette décision de la Haute Cour et nous restons toujours mobilisés pour faire l'observation du procès qui devra reprendre devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous avons essayé d'analyser les moyens de droit évoqués par la Cour. Nous nous sommes rendus compte que par rapport au déroulement qui a eu devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la Cour de cassation a bien dit le droit. Cela veut tout simplement dire qu'il rentre dans la situation où il s'est trouvé avant la décision de la Cour d'appel qu'il avait condamné à 13 ans. Ça veut dire qu'il reste, bien sûr, sous la condamnation de 20 ans qui avait été prononcée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, laquelle condamnation fera l'objet de discussions, de débats, de contestations par lui devant la même Cour autrement composé.
Pour sa part, la plateforme politique Lamouka estime que la justice n'a pas correctement dit le droit, car il estime que c'est un premier pas vers l'acquittement définitif de Vital Kamerhe. Prince Epengue, communicateur de cette plateforme, est pris au téléphone par Jean-Francis Mouya.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation est une décision politique. L'organisation matérielle de ce procès a valu plus de 400 000 dollars à la République et à la fin, tous ceux qui avaient été condamnés se font libérer. Le président de la République avait promis un état de droit à la population, mais ce que nous voyons là est un état de non-droit. L'annulation de la condamnation de Vital Kamerhe constitue la promotion de la corruption. Nous disons que c'est du théâtre de l'Union sacrée. Au Congo, la liberté provisoire est synonyme d'une liberté définitive. S'ils disent que la condamnation de Vital Kamerhe a été cassée, cela sous-entend que c'est définitif. Ces 57 millions de dollars auraient pu aider pour la construction des routes et des hôpitaux en Mbandaka et même la création des emplois. Que cette somme retourne dans la caisse de l'État.
En territoire de Rutshuru, les habitants de la localité de Gikoro, en groupement de Djomba, dénoncent déjà des exactions commises par des combattants du M23 dans plusieurs villages. Des sources locales rapportent des tueries, des pillages dans des maisons, mais aussi des cas de maltraitance commis sur des habitants suspectés de donner des informations à l'armée. Si Famagourou nous fait le point.
D'après des témoignages des personnes jointes ce mardi dans cette partie, plusieurs personnes ont déjà été tuées et leur corps est trouvé dans les villages. C'est par exemple un habitant du village Karubara, retrouvé mort à Kayenzi hier, alors que deux autres ont été tués à Tchanzu ces derniers jours. Les habitants affirment que les personnes ciblées disparaissent d'abord avant que leur corps ne soit retrouvé. En plus, plusieurs cas de personnes fouettées ont été enregistrés, notamment à Musongero. Les combattants du M23 sont également accusés de faire le porte-à-porte pour piller les biens de la population pour se ravitailler dans les collines. Les rebelles du M23 accuseraient les habitants restés dans les villages de transmettre leurs informations aux FARDC. En conséquence, ils subissent la colère des M23. Un notable de Djomba regrette pour sa part que les récoltes des habitants vont s'abîmer dans les champs dans la mesure où la plupart des habitants ont fui la région alors que c'est la période pour certains travaux champêtres. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Poursuite de notre série de reportages sur l'adhésion de la RDC au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le pays doit plutôt définir le plan stratégique pour capitaliser sa présence dans chaque organisation. C'est ce que suggère le professeur Moïse Tshifende, spécialiste dans les questions d'intégration régionale. Ces propos ont été recueillis par Cynthia Bachizi.
La RDC est au cœur de l'Afrique, entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Sa position géostratégique peut expliquer cette multi-appartenance à plusieurs organisations internationales africaines. Comment capitaliser cette multi-appartenance? Tout d'abord, la RDC doit définir les objectifs et les stratégies pour chaque organisation, savoir ce qu'elle attend de chaque organisation pour réaliser son intérêt national. Par exemple, au niveau de la SADC, il peut se fixer la sécurité comme objectif stratégique. Au niveau de l'EAC, au-delà du commerce, il peut se fixer les infrastructures. Parce qu'il y a un programme régional d'infrastructures où les États se soutiennent mutuellement pour construire les routes, les chemins de fer. Il y a à la CPGL, par exemple, l'exploitation commune des ressources partagées, comme le gaz méthane dans le lac Kivu, comme l'exploitation de la rivière Ruzizi et la cascade de Ruzizi pour produire l'énergie pour tous les États membres de la CEPGL. La multi-appartenance n'est pas un mal en soi. Ceci dit, il faut rationaliser. Il faut pas naviguer à vue.
Actualité internationale.
Oxfam alerte sur une augmentation du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Plus de 260 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans l'extrême pauvreté en 2022, selon l'ONG. En particulier dans les régions déjà touchées par des crises en Afrique de l'Est, au Sahel, au Yémen ou en Syrie. Ces personnes seraient contraintes de vivre avec moins de 1,90 $ par jour. 15 districts sont désormais concernés par les allègements du confinement mardi à Shanghai, malgré la poursuite de la flambée du variant Omicron, avec 23 342 nouvelles infections rapportées pour la journée du 11 avril, dont une grande majorité des cas asymptomatiques. Une manière de soulever un peu le couvercle après près de deux semaines de mise sous cloche stricte de la capitale économique chinoise, alors qu'une partie de ses 25 millions d'habitants perdent patience.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Jaël Kaïba, présidente provinciale de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC Maniema, qui se lance dans la sensibilisation des femmes et hommes opérateurs économiques à adhérer à sa structure pour le développement de la province. Cette sensibilisation vise également à susciter les petits commerçants à prendre au sérieux leurs activités qui soutient les familles. Madame Jaël Kaïba s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Jaël Ilunga, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
La FENAPEC Maniema, aujourd'hui en pleine sensibilisation des hommes et femmes, de quoi est-ce qu'il est question?
Il est question ici de chercher le développement durable intégral dans notre province. C'est-à-dire, nous voulons maintenant regrouper les femmes selon les activités qu'elles sont en train de faire. Avec ces activités-là, c'est par groupe que chaque groupe sera formé sur la théorie et sur la pratique.
Il s'agit de quel groupe?
Nous avons le groupe des mamans qui sont dans la culture vivrière, maraîchère, qui sont dans l'élevage des poules, dans l'élevage des porcs, même l'élevage des vaches, qui sont dans les fabrications de braises. C'est toutes sortes d'activités. Les mamans, vraiment, la porte est ouverte pour toutes les mamans. Même les papas aussi, ils sont invités.
Madame, parmi les objectifs de la FENAPEC, c'est aussi chercher à assurer l'intégration de la femme et de la jeune fille dans les systèmes économiques, sociaux, politiques et du développement intégral et durable de la RDC et en cas d'espèce de la province du Maniema. Qu'est-ce que vous faites pour l'atteinte de cet objectif?
Oui, cette année surtout, en collaboration avec le thème de l'année, on nous parle de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille dans le système économique et durable et intégral et durable. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser à cause de ce thème-là que les femmes du Maniema, nous les sensibilisons à ce que les femmes se réveillent, de savoir à ce que les petits commerces sont en train de faire là, c'est très important pour notre province et pour notre pays. Vous voyez, ces derniers temps, il n'y a pas d'emploi, mais c'est cela que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est une épine dorsale pour notre province, pour notre pays, parce que ce sont des mamans là qui prennent la charge des familles, les études des enfants, leur scolarisation, même leur survie. Alors, les mamans doivent prendre cela avec une grande importance. C'est très important et c'est très capital pour les familles dans notre pays.
Si je ne m'abuse pas, la FENAPEC Maniema n'a qu'une seule femme comme membre. Et puis vous cherchez l'intégration de la femme. Comment?
Cette année-ci, nous sommes décidés que les femmes viennent s'intégrer. Que les femmes viennent s'intégrer de savoir et de connaître l'importance de ce qu'ils sont en train de faire dans notre province et dans notre pays.
On connaît tous que la femme n'a pas un capital consistant pour mener de grandes activités. Comment va-t-elle faire?
Oui, oui. La femme n'a pas de capital, c'est une réalité. Mais elle doit aussi être formée, elle doit aussi être informée. On commence toujours par quelque chose. Mais avec quelque chose, si elle est formée, si elle est informée, elle va évoluer, elle va monter. Si elle met de l'importance, elle va évoluer, elle va monter. C'est pourquoi vous voyez cette année-ci, il y a notre gouvernement, notre président Tshisekedi, a pris une méthode avec l'ANADEC. L'ANADEC est venue ici, c'est une agence de partenaires, des hommes et des femmes qui sont des entrepreneurs. Il y a une formation, il y a une information, il y a la formation politique, il y a la formation théorique et pratique. C'est pourquoi vous voyez le samedi passé, nous étions ici en réunion, nous avons invité les mamans de venir d'abord commencer par les commencements. Si vous avez l'argent, vous ne savez pas l'orienter. Si vous avez l'argent, vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas formé dans la théorie, dans la pratique, vous n'allez pas aller très loin. Parce qu'on dit, pour monter, pour réussir, vous devez avoir aussi beaucoup de conseillères. C'est dans ça que nous voulons commencer cette année-ci, le commencement qu'on voit dans d'autres provinces. S'ils suivent l'information, s'ils suivent la formation théorique et pratique, les mamans vont réussir dans ce que c'est qu'elles sont en train de faire. Cette fois-ci, c'est vraiment très sérieux. C'est pourquoi nous les sensibilisons de venir à la FENAPEC en masse. Et quand il y aura une autre rencontre, qu'elles viennent en masse pour l'information. Nous allons passer à la théorie, nous allons passer à la pratique. Comment utiliser l'argent, comment évoluer, comment contrôler, comment faire les dépenses et comment garder les intérêts. Tout ça, c'est là inclus dans notre formation.
C'est quel type de femme que vous voulez former? Celles qui vendent des tomates?
Toutes sortes de femmes, maman. La tomate, c'est très importante. Parce qu'on ne peut pas préparer une nourriture qu'elle soit bonne s'il n'y a pas la tomate. Même les femmes qui vendent les maté mêlé, même les femmes qui vendent les braises, toutes sortes de choses, papa, maman, c'est très important. Parce que ça régénère toujours l'argent. Et il n'y a pas de couleur dans l'argent pour dire, cet argent c'est pour de l'huile de palme, ça c'est pour les braises, ça c'est pour les sombés. Non. Même les sombés. Si nous faisons un champ ici, avec les sombés là, nous les rangeons ici, mettons dans les sacs, dans les sachets, nous envoyons à Kinshasa là-bas, avec notre organisation, nous aurons toujours l'argent. Que les mamans viennent d'abord, nous allons nous organiser nous-mêmes. L'ANADEC aussi va nous aider à comment faire, que nous puissions aussi évoluer dans la province de Maniema.
Et pour venir à la FENAPEC et participer à la formation, y a-t-il des conditions?
Il y a seulement une seule condition, c'est d'avoir une activité génératrice de revenus. C'est ça la condition, maman. Avoir du travail, c'est ça la condition principale.
Et alors, celle qui n'a pas du travail?
Celle qui n'a pas du travail, c'est bien. Elle va venir, elle va suivre les conseils, elle va suivre la théorie, la pratique. Je pense qu'elle sera aussi excitée de faire quelque chose.
Madame Jaël Ilunga, merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.